Bonsoir, bienvenue pour le dernier numéro de cette 10e saison de La Relève. La Relève, c'est toujours un quinzomadaire radiophonique de Radio Campus Paris consacré aux nouveaux talents et aux récits originaux, à moins que ce ne soit l'inverse. Et c'est un lundi sur deux, sauf mois de juillet où on a réussi à être hebdo. Ce soir, pour la dernière de la saison, on parlera théâtre en plein air, silence. Mes invités, et oui, ils sont deux pour la dernière, on ne se refuse rien. Donc mes invités sont écrivains, acteurs et peut-être même organisateurs de festivals. Bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Joseph Oliven, vous êtes acteur ou comédien, vous nous direz, on a pu vous voir récemment dans Les Magnétiques, La femme la plus riche du monde, ou encore plus récemment dans Le Roi Soleil. Mais vous êtes là ce soir pour nous parler d'un festival estival de théâtre qui n'est pas celui d'Avignon, si je ne me trompe. Alors avec vous, nous allons à Dixmont. Vous allez nous dire où est Dixmont, à 1h30 de Paris. Le festival s'appelle La Grande Hâte et vous fêtez ses 10 ans.
Exactement, ouais.
Alors, dans l'ordre, c'est pas Avignon ?
C'est pas Avignon, c'est juste après Avignon. C'est dans les 15 jours qui suivent Avignon, c'est au milieu du mois d'août, à l'époque où à l'ancienne on faisait les fêtes de moisson. Donc, c'est ce moment-là de l'année et on se sert des ballots qui viennent d'être faits pour en faire une arène qu'on installe sur un champ, une jachère que nous prête un des agriculteurs de ce lieu-dit qui s'appelle la Grande Hâte, d'où le nom. Et le nom marchait aussi, La Grande Hâte, parce que dès le départ, on s'est dit qu'on allait tout créer en 15 jours, en 10 jours de répétition la première année. Puis on a rajouté des jours quand même, parce qu'on a rajouté les spectacles. Donc on fait tout. On travaille aussi dans l'urgence avec peu de moyens. C'est une manière pour nous, au début, c'était la manière qu'on avait de créer. Et maintenant, c'est devenu une manière, un style qui nous permet de monter ces spectacles. Et donc Dixmont, c'est ouais, entre 1h30 et 2h de Paris, près de Joigny.
C'est dans Lyon, hein, vers ouais. La forêt d'Hôte.
Exactement, c'est aux portes de la forêt d'Hôte. C'est un champ qui surplombe un vallon. Faut traverser une forêt pour y arriver. On arrive sur un plateau et là, il y a des fermes, des sentiers, des vaches dans le champ d'à côté. C'est un peu magique, on a beaucoup de chance d'être là-bas.
Pour juste faire pas peur à nos auditeurs parisiens, pour y aller, c'est facile ou faut quand même prévoir quelque chose ?
L'idéal, c'est d'avoir une voiture en vrai, parce que ça vous permet de ensuite ou avant naviguer un peu dans la région. Mais vous pouvez tout à fait prendre un train de Paris-Bercy et en 1h20, il me semble, arriver à Joigny.
Désolé, on est obligé de faire dans le concret là.
Ouais, mais c'est très bien. En 1h20, je crois, vous arrivez à Joigny. Et après, bah, nous, on a un système de covoiturage cette année. Donc, y a des solutions, quoi.
On trouve tout ça sur le site internet ?
Le site internet, www.lagrandehatte.com.
Vous faites ça très bien.
Merci.
cette année, vous fêtez vos 10 ans. Ouais. Si on revient 10 ans en arrière, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez eu l'idée de créer ce festival ? C'était un soir entre copains, vous aviez un peu fait la fête. Vous vous êtes dit, tiens, et si on fait un festival au milieu des vaches ?
C'est, ouais, un peu, ça a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu Avignon. Et il y a eu l'envie de faire quelque chose d'une taille un peu plus humaine, de moins...
Quand vous dites qu'il y a eu Avignon, vous avez joué à Avignon ?
On a fait Avignon, ouais, tous, dans la troupe, en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène ou autre. Et donc, il y avait l'envie de faire quelque chose de plus petit, de plus intime. Il y avait l'envie aussi d'aller à la campagne, de rencontrer des nouveaux publics, de travailler dans le plein air, dans les champs, sous le ciel. Il y avait cette envie-là. Et puis bon, au début c'était peut-être un peu plus personnel, mais après on s'est rendu compte qu'on était 2-3 à avoir cette envie-là. Puis on a eu des exemples autour de nous de gens un peu plus âgés que nous qui y arrivaient très bien, le nouveau théâtre populaire par exemple, qui nous a beaucoup inspiré. On s'est dit que c'était possible. Et puis il y a une année après où on est tous et toutes un peu partis dans des écoles nationales un peu diverses entre la Belgique, la France, Lille, Paris, Marseille, etc. Et on a dû abandonner nos projets qu'on avait à l'année. Donc on s'est dit bon bah retrouvons-nous cet été. Trouvons un lieu où on peut tous dormir, où on peut répéter 10 jours tranquillement. Et après, on jouera 3 jours les spectacles et on verra si ça marche. Et ça s'est plutôt bien passé. On a refait une deuxième année.
Dès la première année,
ouais, alors on était 30 hein, dans le champ. Hein. Pour nous, c'était génial. Mais il y a quand même eu cette année-là un jour où on a senti qu'en 3 jours déjà, le mot s'était un peu passé et que le dernier jour, il y avait plus de monde, il y a eu un vrai engouement. Et il y a des gens du coin qui sont venus nous prêter plein de matos, etc. Donc on a senti qu'on était très bien accueillis et qu'on répondait à un désir, à une volonté, que les gens étaient très contents de nous avoir là. Donc on a recommencé, et puis d'année en année, et là ça fait 10, ouais.
Vous dites on était 30, c'était génial. Vous dites on a joué devant 30 personnes.
On a joué devant 30 personnes le premier jour.
Ouais, mais c'est intéressant parce que souvent on a l'impression que les acteurs sont tristes quand ils n'ont pas assez de public. Là, vous, ça vous a... rien que le fait que des gens viennent, vous étiez content.
Bah, on était vraiment au milieu des champs, au milieu de... On est loin. Enfin, je veux dire, c'est vraiment perdu au milieu des champs. Donc on ne savait pas si les gens allaient venir. On était connus, il y avait 2-3 voisins, mais on savait qu'il y en avait 2-3 qui allaient venir pour être sympas, mais on n'était pas sûr qu'on allait voir des gens arriver qui auraient entendu parler de nous par une affiche, un flyer, etc. Et en fait, ouais, au début, on était très contents. Puis je dis 30, mais au final, dans l'année, on a été quand même. Il y a eu au total de 400-500 personnes qui sont venues. Et maintenant, bon, maintenant, on fait la dernière représentation de l'année, il y a environ 400 personnes au spectacle. Donc, ouais, ça a pris, quoi.
Et donc, au fil du temps, c'est la 10e année, vous avez un peu monté. Aujourd'hui, vous êtes sur une période qui est plus longue, hein, parce que je n'ai pas encore donné les dates. On est du 13 au 23 août, si je ne m'abuse.
C'est exactement, ça, c'est ça. On fait 10
donc,
jours.
C'est ouais. sur 10 jours. Ouais. Mais vous voulez garder ce côté très simple. L'entrée est à 5 euros, j'ai lu.
Ouais. Ça a été notre règle d'or très vite. On n'est pas les seuls, encore une fois. On fait partie d'un mouvement un peu générationnel. Bon, ça a toujours existé, le théâtre à la campagne, hein, attention. Mais là, il y a eu ces dernières années un retour à ces volontés-là aussi, parce que ça répond à une contrainte économique de l'état du monde de la culture aujourd'hui, où il y a beaucoup moins de moyens. Donc, pour les jeunes qui sortent d'école, bah, c'est très difficile d'entrer dans le circuit ou de trouver des lieux pour répéter, ne serait-ce que pour répéter ou créer. Donc, il y a beaucoup de compagnies, de jeunes compagnies qui sortent d'école et qui vont à la campagne pour avoir de la liberté de création et pour pouvoir être un peu plus que un ou deux sur un plateau. Et la règle des 5 euros, bah, ça a été, tout le monde nous a toujours dit d'augmenter. Il y a eu le Covid, l'inflation, l'Ukraine, etc., etc. Et on a toujours tout fait pour garder à 5 euros symboliquement. On trouve ça important de donner ce signal on fait tout notre possible pour l'ouvrir au plus de monde possible et de trouver d'autres manières pour rendre le théâtre accessible.
Quand vous jouez, si les photos sont exactes, vous jouez sur deux remorques, c'est ça ?
Exact, ouais.
Avec des gens autour de vous qui sont assis sur des ballots de paille, hein, ouais. c'est bien ça.
Ouais. Les remorques sont prêtées par Jean-Luc, le voisin de la ferme d'à côté. Les ballots aussi, ils sont amenés par Daniel, avec l'aide de Jean-Claude et de Christian. Enfin, on a eu beaucoup de chance, je pense que ça a été ça aussi qui nous a beaucoup aidés et qui a fait qu'on en est là, c'est qu'on a été très bien accueillis par les voisins, par le hameau, et que tout le monde a prêté main forte, et que là, il y a même eu des ventes, parce qu'avec 10 ans, bah, il y a certains des agriculteurs qui sont partis à la retraite et qui ont vendu deux jeunes que je salue, Erwin et Johan, et qui ont repris la ferme et qui eux aussi s'investissent à fond dans le projet. Donc tout le monde soutient et c'est l'aide de tout le monde. Donc c'est vraiment, il y a deux rangées de ballots qui font comme une estrade et il y a deux remorques fourragères qui sont mises côte à côte et on joue comme ça devant une ligne de fuite avec un bois, le coucher de soleil à l'horizon.
Alors ça veut dire deux choses, ça veut dire que, un, vous n'avez pas de coulisses vous pour jouer ?
Non, on est accroupi derrière les plateaux, ouais.
Et deux, vous jouez à découvert, donc ouais. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de jeu ? Est-ce qu'il y a un plaisir particulier ou est-ce que c'est juste différent ?
Bah, ça change, bah, ça peut. Il y a des spectacles qui se donnent en plein air qui ressemblent à des spectacles à l'intérieur. Nous, il s'avère qu'on joue avec ça. On aime bien jouer.
Vous utilisez le décor, par exemple, la nature comme
ouais.
le décor.
Bah, quand les vaches se mettent à faire du bruit ou à courir dans le champ d'à côté pendant la scène, si on faisait comme, enfin, le public le voit, nous on le voit, on l'entend, donc on joue avec et c'est génial parce que ça rend chaque représentation unique et ça nous a amené avec le temps à aussi travailler avec une certaine souplesse et une forme de une hyper-présence, en fait. On joue avec l'instant, on joue avec les gens, on les regarde dans les yeux, on leur raconte des histoires. Ils sont là, on est là, on rit avec eux. Et donc, il y a un rapport plus direct et plus dynamique avec le public, je trouve. Mais c'est parce que nous, on a pris ce choix-là aussi de travailler. On est entre le théâtre de salle, le théâtre de rue, dans l'espace public, le tréteau, etc. Donc, et moi, je trouve que ça donne un dynamisme et une réalité à la relation entre le spectacle et le spectateur qui est hyper jouissif pour tout le monde.
Je reviens sur ce que vous disiez juste avant, mais voilà, les idées parfois viennent trop vite.
Ouais.
Vous parliez de votre rapport avec les gens du hameau. J'ai l'impression que c'est autant leur festival que le vôtre, enfin, c'est celui de tout le coin.
C'est carrément devenu ça, à fond. Et on est vraiment en train de se rendre compte de ça et d'essayer d'imaginer la suite en fonction de ça. C'est que les 4-5 premières années, on faisait tout. On faisait la billetterie, on faisait les costumes, on montait le champ, on courait au bar pour servir les bières, etc. Mais à mesure que les gens ont commencé à venir et que les gens ont commencé à proposer leur aide, on a eu de plus en plus de bénévoles. Maintenant, on en a une cinquantaine entre la période de création, que ce soit pour créer, aider à créer les spectacles, à monter le champ et pendant la durée du festival pour tenir le bar, tenir la billetterie. Et tous ces gens-là ont commencé à former une troupe en soi de gens qui se voient à l'année.
Ça fait combien de monde en tout ? En gros, hein,
je dirais une bonne cinquantaine de personnes. Si je compte les gens qui reviennent, je compte pas les gens qui sont venus une fois ou qui ont prêté un petit coup de main à ce moment-là, là il y en aurait plus, mais des bénévoles un peu fidèles, je pense qu'il y en a entre 40 et 50, ouais.
Et comment vous faites-vous ça alors en dehors de ces 15 jours ?
Bah justement, je suis très content que vous me posiez la question. Ça va être un peu l'avenir du festival, c'est que on va être là un peu plus à l'année. On va déployer un projet qui va se dérouler un peu sur 3 ans, qui va avoir lieu pendant l'année scolaire et qui va être un projet de co-création partagée avec les habitants et les habitantes du territoire pour aboutir à un spectacle qui soit ce qu'on appelle une création partagée et qui stimule un peu, qui fasse vivre cette communauté, cet écosystème à l'année, et pas que quand on vient et qui aboutisse à des initiatives artistiques et citoyennes sur le territoire, stimulées par la Grande Hâte, mais portées par tout le monde, parce que c'est un territoire qui est très riche en propositions artistiques, en fin de compte. Les gens sont très créatifs, il y a de plus en plus de gens qui s'installent, qui montent des projets, qui ont des idées, il y a des festivals pas loin de chez nous, par les jardins qui sont au nord de Lyon, il y en a d'autres au sud, enfin, il y a toute une dynamique, et nous, on aimerait bien mettre en réseau tout ça.
Alors, moi, si j'ai bien compris toujours, vous n'invitez pas des spectacles rodés. C'est pas un spectacle qui a marché à Paris qui peut venir pendant cette période-là. Ce ne sont que des créations que vous faites, vous. Alors, c'est toujours la même équipe au début ?
Quasi. Il y a des gens qui sont venus, qui sont partis en fonction des agendas. Mais là, ça fait 2-3 ans que c'est la même équipe. Ouais.
Et donc, vous, chaque année, vous avez un programme original que vous décidez entre vous ?
Oui, sachant qu'il y a des années où on reprend des succès de l'année précédente.
C'est le cas cette année, non ?
Cette année, on reprend effectivement un des jeunes publics.
Les Misérables, non ?
Alors, Les Misérables, c'est un autre projet, c'est-à-dire qu'on a voulu le créer en 3 ans, parce que c'est tellement un gros morceau, mais ça se prêtait tellement à notre projet de monter Les Misérables en plein air, dans un champ, pendant l'été, dans un festival de théâtre populaire, qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on monte ce texte. On ne voulait pas passer à côté du gigantisme de l'œuvre, parce que c'est un gros morceau, oui, il y a plein de choses. Et en même temps, on ne pouvait pas faire un spectacle de 6 heures d'emblée comme ça. Et donc, on s'est dit, on va le diviser en 3, on va faire 3 ans. On va faire une première partie l'année 1, une deuxième partie l'année 2, et cette année, on fait la troisième partie. Donc là, ça va faire une intégrale d'environ 4h30. Et l'année passée, on avait fait 1 puis 2 à la suite, en se disant, les gens ne vont peut-être pas venir, parce que ça fait quand même 2h30 de spectacle. Et en fait, c'est les soirs où on a pété les scores. Les gens sont friands de cette expérience-là. Donc, on est super heureux aussi d'avoir amené cette expérience du théâtre un peu à longue durée à nos publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir des spectacles de 6-7 heures.
Et vous jouez forcément des classiques, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi, par exemple, l'affaire de la rue d'Ourcine de la Biche ou Hamlet de Shakespeare.
On part toujours de classiques. Ça, c'est un principe aussi, ça vient, c'est cohérent avec le projet. C'est l'idée de donner accès à un patrimoine universel commun, aussi de rendre savoureux ces textes qui ont pu être ardus quand on les a étudiés à l'école, et de baisser les barrières, ouais. Et de donner accès à ces langues, à ces univers, à ces auteurs, à ces pensées. C'est aussi, on joue dans le paysage. Donc Hamlet, ça, c'est comme le pays, enfin c'est comme un arbre, c'est comme un beau paysage. Ça se mélange, c'est du patrimoine commun. Et puis c'est aussi des textes qui ont été écrits avec beaucoup de rôles. Donc nous, ça nous plaît de pouvoir faire des spectacles à 10 comédiens. C'est des textes qui ont surmonté l'épreuve du temps, donc qui ont fait leur preuve. C'est des textes qui sont libres de droit, donc c'est aussi une contrainte économique. Et puis c'est une manière de s'adresser encore une fois à ce que je disais, à un patrimoine qui, tout le monde a entendu parler d'Hamlet, tout le monde a entendu parler du Cid, même si c'est de loin, et tout le monde a entendu parler des Misérables sans forcément savoir quelle est l'histoire. Et nous, on prend ce plaisir à leur faire vraiment découvrir la force de ces auteurs et de ces langues. Et parfois, on fait des créations plus contemporaines.
Cette année, je crois qu'il n'y en a pas. Mais...
Cette année, il n'y a pas de seul en scène cette année. Il y a une création, un jeune public qui s'appelle Maxence, Roi malgré lui, qui est une écriture contemporaine, qui est l'histoire d'un roi qui ne veut pas être roi.
Justement, vous travaillez avec le jeune public aussi, vous faites des ateliers ?
Ouais, on a commencé ça en 2020.
Vous espérez susciter des vocations dans la forêt d'Hôte ?
Je crois qu'on en a suscité une ou deux, parce que sur Instagram, super. On a suivi, on a vu, là l'autre jour, on en parlait avec une personne qui bosse avec nous, qu'on avait vu l'Insta d'un des jeunes qui avait fait un des premiers ateliers et qui était en train de faire des études, je crois, à Dijon, de théâtre, et qui faisait du commentaire de spectacles qu'il avait vu, donc on était super heureux. Et ouais, on a mis ça en place au Covid, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir jouer. Il s'avère qu'on a pu jouer, mais on s'est dit, quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse quelque chose. Faisons un atelier pour des jeunes qui partiraient pas en vacances, et on l'a maintenu depuis, et on est super heureux, parce que chaque dernier jour de festival à 15h, il y a une dizaine de jeunes du coin qui prennent le grand plateau, c'est-à-dire ces deux remorques avec les grandes, la grande arène de ballot, et ils y vont. Et ils ont fait un texte pendant une semaine et ils jouent en plein air comme nous. Et à chaque fois, c'est un moment magique et merveilleux. Ouais.
Et c'est donc vous qui mettez en scène ces spectacles-là, enfin, vous...
Alors, les premières années, c'était nous. On s'était rajouté ça sur l'assiette. Et puis, au bout de 2-3 ans, on s'est dit, bon...
quelqu'un, peut-être.
Ouais, on a toujours des copains qui font ça et qui viennent et qui sont là. Donc là, cette année, on a eu plein d'amis qui ont fait. On a eu José Fassini, qui a un spectacle en ce moment qui s'appelle Pépé, une histoire sans chute. J'en profite, à Avignon, qui cartonne. On a eu Alexis Mavropoulos qui est encore avec nous. On a Alma Liver qui le fait depuis 2 ans. Voilà, c'est des gens, des amis qui ont l'habitude de faire des ateliers et qui viennent spécialement pour ça et qui donnent tout pour ces ateliers. Alors que nous, on est pris dans le festival, donc au bout d'un moment, c'était difficile.
Oui, ouais. J'imagine, entre jouer des rôles tous les soirs, s'occuper de l'infrastructure, plus donner des cours, ça fait beaucoup.
Ouais.
Allez, on parle un peu de musique, parce que cette année, j'ai cru comprendre que vous aviez des concerts le journée du 17 et une soirée de clôture avec des DJ.
Absolument, ça fait plusieurs années.
C'est toujours dans le champ.
Toujours dans le champ. En fait, quand on a augmenté le nombre de jours, on était très heureux parce qu'en fait, au début, on était frustrés de jouer que 3-4 fois ces spectacles qu'on avait créés dans la pluie, le vent, le cagnard. Donc on a voulu rajouter des jours, mais après 15 jours de répétition dans la pluie, le vent, le cagnard et 5 jours de représentation dans la pluie, le vent, le cagnard, si vous voulez, on avait besoin d'un jour de repos. Donc on a pris un jour de repos, on a fait une relâche pour reprendre la semaine d'après. Et puis au moment, on s'est dit, on a toute cette infrastructure, il s'agirait de la partager avec d'autres élans artistiques locaux. Et donc depuis le début, on fait un groupe du coin et un groupe d'ailleurs, que ce soit la Belgique. Là, cette année, c'est Tessina qui vient de Marseille. Et on a un groupe qui s'appelle CC, qui s'appelle Le Nom Échappe.
On le mettra sur le site.
Mais on a un groupe qui vient du coin, qui est de Joigny, qui sont des jeunes cools qui font de la new wave d'inspiration moscovite des années 90, d'après ce que j'ai compris, ça promet. Et les DJ, on les a dans la soirée de clôture. Et cette année, comme c'est les 10 ans, on a toute une programmation d'anniversaire. Et donc, on aura évidemment un goûter et une boum. Et lors de cette boum, il y aura une autre soirée DJ. Donc, cette année, on fait la fête deux fois.
Et j'ai oublié de vous demander au début, si on vient en train et avec covoiturage, comme vous l'expliquiez, on peut camper dans le coin si on
Vous pouvez camper à l'arrache sur le champ avec grand plaisir. Il y a une source d'eau, mais il y a guère plus.
Ah oui.
Et dans les environs, il y a des campings, mais il peut y avoir des solutions. Les gens ont toujours plus ou moins réussi. Et puis après, il y a aussi les joies du vélo. Vous pouvez absolument faire du vélo. On a parfois des cyclistes qui s'arrêtent par hasard parce qu'ils passaient par là et qu'ils passent la soirée avec nous. Et donc, il y a plein de solutions. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions de comment venir. On peut peut-être vous donner quelques renseignements.
Vous voulez rester avec un public, justement, parce que moi je n'arrête pas de vous poser des questions pour vous demander comment on peut venir, mais peut-être que vous voulez rester avec les gens du coin, c'est plus sympa, c'est plus pour eux que vous faites ça. Vous n'avez pas envie que ça devienne un endroit où tout le monde viendrait pour voir ce qui se passe?
Non, si, on ferme pas la porte à ce que tout le monde vienne, mais tout le monde est bienvenu. Ça, c'est la première chose. C'est une de nos règles aussi, c'est que tout le monde est bienvenu. Mais c'est vrai qu'on le fait aussi pour le coin. Donc, souvent, nos familles, nos amis nous disent « Mais pourquoi vous faites ça en milieu d'août ? Nous, on est par-ci, par-là. Vous ne voulez pas le faire à tel moment. » Mais en fait, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'amener le théâtre à un endroit où il n'y en a pas... Du coup, moi, il n'y en avait pas énormément. Et à un moment où les gens ne partent pas forcément en vacances ou reviennent ou sont en vacances ici... Donc, tout le monde est bienvenu, mais c'est vrai qu'on le fait aussi pour le territoire. Et c'est un territoire auquel on est super attaché et avec lequel on a noué une relation là, en 10 ans qui est super belle.
Là, on est à quelques jours du début. Vous allez rentrer dans les répétitions, là, les 15 jours de répétition. Qu'est-ce que vous craignez le plus cette année, la pluie ou la canicule? C'est quoi le pire pour vous?
Les deux.
Si
on craint pas l'un, on craint l'autre, parce que là, cette année, ça je vais toucher du bois et je vais pas me porter l'œil, on a eu une sorte de microclimat sur notre champ où il y a plusieurs fois où la pluie a contourné notre champ. Moi, je me suis toujours demandé si c'était pas la chaleur du public qui faisait que météorologiquement il y avait comme une espèce de
j'en suis sûr.
Ouais, voilà, c'est ça. Ou peut-être il y a un gris-gris quelque part sur le champ. Mais en tout cas, on a eu plus ou moins de la chance. Mais on a des solutions de repli qui sont aussi chouettes. S'il pleut un peu, on annonce tout sur Instagram. S'il pleut un peu. Généralement on reste sur le champ. L'année dernière par exemple il pleuvait un peu. Tout le monde a maintenant des cartes météo, donc tout le monde peut prévoir très bien à quel moment il va pleuvoir ou non, à quel endroit. Et on avait commencé Les Misérables avec des gens en Kawaii, Et il y avait 350 personnes qui étaient venues. Et au début, les gens étaient un peu en caouet. Et puis petit à petit, il s'arrêtait de pleuvoir. Et à la fin, c'était, tout le monde s'est levé d'un bond parce que ça rend la chose plus magique. Le plein air rend la chose plus magique. Et si la canicule est démesurément forte, là aussi, on prendra des mesures. Mais donc, je touche du bois pour qu'il y ait un bon et doux climat tempéré comme on a l'habitude d'avoir. Et ça va être très sympa. Mais venez couvert parce qu'il fait froid la nuit quand la nuit tombe. Et il peut faire chaud le jour quand le soleil est là.
Vous, Joseph Oliven, vos projets là, pour les mois qui viennent, les semaines qui viennent ?
Ben, y a ça c'est quand même un assez gros moment. En parallèle de ça, je vais commencer le tournage du premier long métrage de Marie Vernal qui s'appelle Cathy déménage avec India Air. Donc, c'est un super chouette scénario qui se passe à Amiens sur une mère qui essaie d'élever ses deux enfants dans un contexte assez précaire. Et c'est un film qui est bouleversant et en même temps très joyeux, très vivant, très drôle. J'en parle encore avec la Réal ce matin. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Je viens de finir un film d'époque qui se passe sous Louis XIV de Marc Duguin qui s'appelle Les Poisons. Et puis j'ai un enfant de bientôt 8 mois. Donc, tout ça m'occupe pas mal et je suis très heureux.
Très très bien. Voilà. Merci beaucoup d'être passé par notre studio, Joseph Oliven. Je vous dis, on peut vous retrouver La Grande Hâte, le compte Instagram. Ça s'appelle La Grande Hâte. C'est assez facile. Ouais. Cool, on y va tous.
Mais oui, venez, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup.
Merci.
À vous. Allez, on va pas vous mentir, cette interview avec Joseph Oliven a été enregistrée vendredi dernier. Là, maintenant, on est en direct avec vous. Merci à vous d'être là en direct. Ruslan. Je vous ai demandé avant en plus, mais comme j'ai pas de mémoire et que je parle beaucoup, j'ai oublié. Alors, merci d'être avec nous, Ruslan Ordienko. Vous êtes acteur de théâtre, performeur et écrivain. C'est à ce dernier titre que vous êtes avec nous ce soir pour votre premier roman qui s'appelle Enfin silence et qui a été publié aux éditions Les Pérégrines. Alors, votre livre parle de quelque chose qu'on a normalement pas trop le droit de faire à la radio, mais comme on est le 27 juillet, on va le faire quand même, et tant pis si le réalisateur n'est pas content. C'est rigolo parce qu'on a fait un silence, puisque votre livre s'appelle Enfin silence, qu'on va voir pourquoi vous parlez de silence, mais automatiquement j'ai retenu ma respiration. Je sais pas vous ce que vous avez fait, mais à un moment je me suis senti obligé d'arrêter de respirer.
Moi aussi, parce que j'ai des problèmes du nez, donc.
Non, mais c'est parce qu'on en a parlé avant ça. Mais spontanément, vous, quand vous faites du silence, vous respirez quand même, rassurez-moi.
Bien sûr, parce que surtout que le silence parfois durait plusieurs jours, donc j'étais obligé de respirer, sinon je mourrais.
Alors, tout commence dans votre roman par une. D'abord, est-ce que c'est un roman ou c'est largement inspiré de faits réels?
C'est
comme vous voulez, hein, vous me dites.
C'est un roman dans sa forme finale, mais tout ce qui a été fait, ça vient d'une vraie performance.
Alors, c'était une performance, parce que tout commence parce que donc c'est vous, c'est pas votre narrateur, a une déception amoureuse, il est très amoureux, il n'ose rien dire, et puis le jour où il parle, il s'aperçoit que contrairement à ce qu'il pensait, cet amour n'est pas partagé. Et le passage pour lui du silence à la parole a été un échec, donc il décide de se taire pendant ses dates.
Exactement.
Est-ce que j'ai bien résumé ?
C'est aussi simple que ça, oui.
Mais vous avez vraiment pensé ça après un silence amoureux, enfin une séduction, vous n'avez pas osé le dire, qu'il fallait se taire et essayer de rencontrer des gens sans parler ?
Étant donné que la personne dont j'étais amoureux m'a dit que je me suis trompé dans mes projections, je me suis demandé, suis-je aussi aveugle sur ce que la personne renvoie ? Et donc, vu que... Bon, il n'y avait plus rien qui pouvait être possible avec cette personne-là. J'ai décidé de rencontrer d'autres personnes sans leur parler pour voir où est-ce que ça pouvait mener, qu'est-ce que je peux en déduire, de voir dans le regard, dans les silences de l'autre, oui.
Vous auriez pu faire l'inverse, c'est que puisque c'est le fait de ne pas avoir parlé qui a posé problème, parler tout de suite. C'était moins drôle peut-être.
C'est moins drôle, d'autant plus que... A posteriori, non pas a posteriori, mais à force de faire les rencontres, je me suis quand même projeté dans la forme artistique et je voulais un peu questionner nos habitudes des rencontres et bouleverser, peut-être changer nos habitudes.
On va quand même bien expliquer, vous avez quand même bien expliqué le dispositif de la performance, pardon, parce que moi je connais le livre, mais je pense aux gens qui nous écoutent, eux ils savent peut-être pas, alors je voulais essayer de nous expliquer.
Oh, c'est un peu compliqué. Et il s'agit d'une succession de rencontres en silence. Suite.
Des dates amoureuses par une appli de rencontre.
Des dates amoureuses, tout à fait. J'avais téléchargé les applis de rencontre telles Tinder, Bumble, et j'ai écrit « Viens, on va dans un café, on s'installe à une table et on ne prononce aucun mot. On se dévisage, on s'exprime avec nos gestes, nos regards, nos sourires, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps, si on le veut bien sûr, que l'on s'adresse la première parole, ou que l'on se quitte sans connaître la voix de l'autre. » C'était dans ma description.
C'est le truc le plus anti-radiophonique, hein, mais je vous laisse continuer.
Oui, oui. Pourtant, ça marchait très très bien. Il y a beaucoup de personnes qui étaient très très intriguées. De part, c'est devenu tellement une consommation de rencontres, les applis aujourd'hui. Donc on y va beaucoup trop, on raconte nos vies parfois insignifiantes, parfois des choses dont on s'en fout peut-être. Et du coup, on s'éloigne peut-être de la rencontre, de la vraie rencontre. Alors que ça permet justement... Après un gros malaise d'une demi-heure au minimum, à force de se regarder dans les yeux, de s'offrir un peu, de s'ouvrir et de voir qu'est-ce que l'autre, comment l'autre fonctionne, quel est son comportement, qu'est-ce que l'autre ne cache pas, puisque avec les mots on peut beaucoup cacher, et justement en racontant des choses on peut en inventer. Avec le silence, on est tellement mis à nu qu'on ne peut pas mentir, on est tel qu'on est et il faut faire avec.
Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que finalement vous avez trouvé beaucoup de partenaires pour jouer le jeu. Ça a été aussi facile que le livre en donne l'impression ? Parce qu'il y a, je crois, une quinzaine, je ne les ai pas comptés en vrai, de rencontres, mais...
J'ai gardé 14 personnes.
J'ai bien compté alors.
sur une vingtaine de rencontres, à peu près. Oui, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient très, très intriguées, qui voulaient forcément le faire. Il y avait même des personnes avec qui on matchait et qui m'écrivaient « Ah, je me sens... Je trouve l'idée brillante, mais je n'arriverai pas, je ne pourrai pas le faire. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui intriguait les gens, puisque justement, ça sortait de l'ordinaire.
Alors, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ça se passe dans le silence, mais finalement, chaque rencontre est différente. Tous les silences ne se valent pas. C'est la grande chose qu'on apprend en vous lisant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est que... Il y a des silences qui sont gênants, il y a des silences qui sont émus, il y a des silences qui sont des absences, il y a des silences qui sont de la triche, finalement.
Exactement. Finalement, je ne sais pas comment m'en dire, mais c'est quand même un langage... On parle toujours du langage non-verbal qui accompagne la parole, alors que là, c'est en coupant la parole, il y a juste ce langage et donc, qui sort du cadre de non-verbal. C'est juste un langage. Et comme on ne discute pas de la même manière avec des différentes personnes, ça ne provoque pas du tout la même chose en silence non plus.
Il y a des gens que vous pensez avoir vraiment rencontrés dans le silence ?
Oui, je pense qu'il y en a quelques-unes dont je regrette ne pas avoir gardé contact, par exemple. Et je pense, j'étais persuadé que j'aurais pu vivre une belle histoire d'amour par la suite, tellement il y avait une connexion si forte qui s'était produite. Et oui, ça aurait vraiment pu. Oui, je pense que j'ai rencontré ces personnes-là.
Oui, il y en a une, on le sent, en tout cas, quand on lit qu'il y a... Enfin, il y en a deux, m'a-t-il semblé, mais on ne va pas citer leur prénom, même si c'est pour eux, mais ce n'est pas grave. Quand on fait moi, ce qui m'a semblé aussi que le moment le plus délicat dans ces moments, dans ces rencontres, c'est le moment où on décide de se parler. Il y a ceux qui parlent trop, il y a celles qui parlent trop vite, il y a parfois ceux avec qui finalement on a envie de rien dire. Il y a celles qui arrivent et qui veulent parler tout de suite parce qu'en fait, elle a cru qu'elle allait pouvoir jouer le jeu, mais elle n'y arrive pas.
Je ne sais pas si elle a cru qu'elle allait pouvoir jouer le jeu. Je crois que c'était un prétexte pour me rencontrer. Et en tout cas, elle a refusé le jeu, justement. Ah, pour moi, c'était souvent une déception quand la parole arrivait. Souvent, elle arrivait au début, lors des premières rencontres, puisque moi-même, je ne savais pas forcément gérer mon silence. Et quand on est anxieux, quand on est stressé, on comble par partout n'importe quoi, par des gestes parasitaires. Et donc, on s'éloigne de la rencontre. Et à force que les rencontres se produisaient, il y avait de moins en moins les personnes qui voulaient parler. Oui, la parole arrivait, mais j'étais vraiment triste.
C'était, au bout d'un moment, c'est quelque chose que vous appréhendiez ?
Non, puisque s'il faut que la parole arrive, qu'elle arrive. Après, ça coupe la rencontre, donc je pense que dès que la parole arrivait, très très vite, on se quittait, puisque ce n'était pas l'objet du livre, de l'expérience, en tout cas.
Je vais aller un peu au-delà du livre et aller dans votre intimité actuelle, enfin votre intimité, oui, dans votre vie actuelle. Est-ce que ça vous rend différent dans la manière dont vous vivez le silence aujourd'hui avec les autres ? Est-ce que des gens, par exemple, comme vous dites, qui ne supportent pas le silence, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous supportez ça plus facilement ? Est-ce que vous recherchez peut-être des gens qui parlent moins, qui font moins de bruit ?
qui font moins de bruit, pas forcément, mais oui, j'adore le silence et j'adore partager le silence. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'en ai parlé avec mon amoureuse et on disait quelles sont les qualités qu'on apprécie chez l'autre, et c'est le fait de pouvoir partager le silence avec l'autre personne. Donc oui, c'est quelque chose qui m'est beaucoup moins gênant aujourd'hui. Et après, avec ça, avec juste le silence, il y a aussi tout le langage non-verbal auquel je suis beaucoup plus attentif aujourd'hui.
Alors, je vois le temps qui tourne. Il y a aussi un moment où vous allez faire une retraite silencieuse, mais et vous êtes seul là, avec personne. Moi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que peut-être exposé comme ça, je tiens à dire oui, que le livre est très surprenant parce que ce n'est pas du tout répétitif. On pourrait imaginer une suite de rencontres silencieuses. Au contraire, il y a des évolutions, il y a des personnages. Vous allez jusqu'à, par exemple, aller passer 48 heures, je crois, dans une ville étrangère avec une jeune femme que vous ne connaissez pas et avec qui vous n'allez finalement pas beaucoup parler, ou vivre une aventure pendant une semaine dans un train à faire des allers-retours entre Lyon et Paris. Ça a été un gros travail, justement, de faire cette forme pour pas que ce soit répétitif, pour arriver à trouver... Moi, quand j'ai commencé le livre, j'ai eu très peur. Pour vous, je me suis dit, oulala, si on ne se parle pas, ça va être ennuyeux. Mais non, finalement, vous arrivez bien à renouveler le...
Merci beaucoup, puisque j'ai eu quelques reproches des personnes qui ont pu trouver ça répétitif. Donc on a débattu, donc ils ont quand même, j'ai pu démontrer qu'il y a quand même une dramaturgie et la construction du personnage.
Je suis complètement d'accord, oui.
Et oui, je pense que les premières rencontres étaient dans un bar, dans un café.
Qui a un nom très rigolo, j'ai oublié son nom d'ailleurs, comment il s'appelle
Le
café à Lyon, là, il s'appelle...
L'âne sans queue.
Voilà, l'âne sans queue.
C'était... J'adore ce café, je ne suis pas retourné depuis longtemps. Et sinon, oui, à force de faire les rencontres, je me suis dit que c'est aussi bien de partager quelque chose comme un musée, une balade, et ça permet d'être un peu plus libre dans la rencontre. Et oui, pour écrire aussi, il fallait que je change un peu, et si ça ne se passait que dans des cafés, toutes les rencontres, ça aurait été assez pénible, je pense.
Est-ce que vous pourriez en faire un texte pour la scène ?
Pour la scène, je ne pense pas, alors que pour le cinéma, peut-être. Vu que tout se passe tellement dans le regard, dans le micro-mouvement, ce qu'on peut montrer avec la caméra par le gros plan, alors que sur une scène, même le premier rang, parfois, est à 3 mètres de la scène. Et c'est,
non, mais
c'est
vous, imaginez-vous, seul en scène, racontant cette histoire, vous pourriez pas le faire ? Ça, vous n'avez pas eu l'idée ?
À vrai dire, je n'aime pas aller seul en scène. Donc,
vous avez le
jamais
droit.
Jamais j'en voudrais en faire. Mais,
si quelqu'un vous proposait de le faire à votre place ?
Avec plaisir. Toute la vie que le livre peut prendre, je serais très heureux.
Vous avez eu des difficultés à trouver un éditeur avec un sujet pareil ?
Pas vraiment. J'en ai envoyé à, je dirais, une dizaine d'éditeurs, à peu près. Et j'ai eu 3 bonnes réponses. Et à force de faire des rencontres, des échanges, je me suis dit, c'est là que j'ai eu le coup de cœur avec les personnes qui mènent les Pérégrines.
Alors, moi, il y a quand même une chose, et on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour répondre à cette question qui est très importante. C'est que malgré le silence, malgré tout ce langage, j'ai toujours l'impression que quand il y a eu, après, relation sexuelle, relation charnelle, enfin, on emploiera le mot qu'on veut, finalement, ce qui se passe à ce moment-là, c'est toujours une surprise. Dans votre livre, j'ai découvert que même si on peut passer du temps en silence avec quelqu'un, l'harmonie qu'il va y avoir au moment du... on voit que je suis coincé, moi. Au moment du passage à l'acte, reste surprenant. Il y a des gens qui se révèlent violents alors que rien ne les laissait imaginer. Il y en a d'autres qui vont être tendres. Il y a encore un autre domaine là où c'est au-delà du silence, peut-être.
Alors oui, il y a quand même la société qui impacte beaucoup les relations, les rapports entre les personnes. Surprenant, je ne sais pas. Oui,
moi, j'ai
quand
été
même.
Surpris.
Moi aussi, à certaines rencontres.
Vous, j'imagine, encore plus que moi, puisque vous avez payé avec votre corps.
Oui. Je ne saurais pas vous dire, à vrai dire, d'être une tautologie. En fait, vu que les rapports sexuels, quand ils arrivaient extrêmement vite... je pense qu'on ne peut pas tout connaître de la personne non plus. Je pense qu'on s'en rapproche beaucoup plus vite en silence qu'avec la parole, mais on ne peut pas tout savoir de la personne en à peine 2-3 heures non plus.
D'accord, et encore moins en un peu plus de 15 minutes. Merci beaucoup. Il faut qu'on libère l'antenne. Merci beaucoup, Ruslan Ordienko. Votre livre s'appelle Enfin Silence. Il a paru aux éditions Les Pérégrines. Et rien que pour le dernier chapitre, il faut le lire. Merci beaucoup. C'était La Relève. C'était la dernière de l'année par le toujours silencieux Pablo. On n'en tirera aucune conclusion. C'est la dernière de la saison. Alors, je remercie tous les invités qui se sont succédés au micro de cette relève, cette saison encore. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur le site de radiocampusparis.org. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Et nous, normalement, normalement, si tout va bien, on se retrouve le 21 septembre avec de nouvelles voix et de nouveaux récits. Bonne soirée sur Radio Campus Paris 93.9 FM.